Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Heureux de vous retrouver pour une 15e saison. Merci pour votre fidélité au gré du temps. Notre invité incarne mieux que quiconque cette fidélité à l'émission. D'abord parce qu'on l'entend chaque semaine, puisqu'il est l'interprète de notre thème musical, et aussi parce qu'il nous visite régulièrement. Jamais il ne rate l'occasion de venir nous saluer avec beaucoup d'aménité. Il a bien voulu accepter d'être notre premier invité pour souligner les 15 ans de cette émission. Alors, merci à Richard Abel d'être avec nous.
Bonjour, quel honneur, Armand, merci beaucoup.
Mais c'est nous qui sommes honorés de vous avoir. Vous savez que vous en êtes à votre 5e présence à cette émission en 15 ans?
Oui, incroyable.
C'est un record Guinness, hein? C'est parce qu'on vous aime bien. Notre auditoire vous apprécie beaucoup et c'est toujours tellement doucoureux que de vous avoir devant nous. Ça coule comme une rivière sur un lit très calme dans une forêt
voilà.
Luxuriante.
Quel beau mot à mon égard, vraiment.
Alors, vous venez de nous présenter un nouvel album?
En fait, oui, c'est un duo. Je dirais, j'ai un ami qui est docteur en biologie qui s'appelle Éric Simard, que vous avez reçu.
Bien sûr.
Et son fils de 7-8 ans s'endort à tous les soirs avec ma musique. Et quand la musique n'est pas partie en quittant la chambre, il demande, s'il vous plaît, faites jouer la musique.
Bon. Je fais une parenthèse, généralement, un artiste qui nous dit « les gens s'endorment sur ma musique », c'est ben, pas possible.
Voilà, ben, en fait, lors d'un téléjournal à Radio-Canada, oui. J'ai justement fait rire...
Je vous taquine.
Oui, mais j'ai justement fait rire la journaliste. J'ai dit, beaucoup de mes détracteurs qui m'ont dit que ma musique était ennuyante ou endormante, eh bien là, je leur donne raison. elle avait mis mon auto-dérision, elle dit, c'est magnifique. Ben non, mais je te fais rire. Ces deux albums-là, donc voilà, le docteur Simard me dit, Richard, tu devrais faire un album de berceuse. Alors, je n'étais pas certain, justement, à cause de ce qu'on vient d'évoquer. Je ne voulais pas faire de la musique endormante, mais je me suis dit, pourquoi pas? Alors, me voilà à commencer à composer quelques pièces, puis j'ai fait l'album. Et finalement, j'avais assez de pièces pour faire deux albums. Et on a vraiment été en studio pour égaliser tous les volumes. On ne voulait vraiment pas que le bébé se réveille au bout de la 16e pièce. Alors, tout est doux, tout est calme. Et voilà que je constate que les ventes, c'est plutôt les personnes âgées qui m'ont acheté l'album, parce que nous étions en temps de pandémie et qu'elle vivait beaucoup d'anxiété. Mm-hmm. Et ma mère, que j'ai perdue l'année dernière, me disait justement, Richard, lorsque j'écoute ta musique, ça meuble ma solitude. Alors, il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient seules. Et c'est incroyable, tout le monde se parlait de bouche à oreille, on dit, ouais. Mm-hmm. Et j'ai commencé à vendre beaucoup d'albums chez les personnes plus âgées, mais chez tout le monde aussi. Alors, il y a des gens qui me disent, on écoute cette musique lorsqu'on peint. Où est-ce qu'on fait des casse-têtes, des mots croisés, de la lecture, du yoga, de la méditation. C'est une musique qui est très appropriée pour ça.
Et paradoxalement, les études tendent à démontrer que les musiques dites relaxantes, mm-hmm. les berceuses en sont évidemment, ouais. sont aussi des musiques qui incitent à la créativité.
Exactement aussi. Et en faisant ces deux albums-là et en lisant tous les commentaires reçus, j'ai découvert que la musique n'était pas simplement un divertissement, mais qu'elle faisait beaucoup plus que ça. Elle fait du bien au cœur et à l'âme. Et il y a Hippocrate, d'ailleurs, le père de la médecine moderne, qui justement jouait de la musique à ses patients atteints de maladies mentales. Et maintenant, beaucoup de cardiologues, on peut aller voir là, sur Internet, là, on peut se renseigner là-dessus, beaucoup de cardiologues maintenant demandent à leurs patients, en plus de la médication, après une chirurgie, d'écouter de la musique douce et relaxante. Ça régularise le pouls cardiaque, la pression artérielle. Alors, ça fait plusieurs bienfaits. Et je vous raconte, Armand, un jour, j'ai offert un concert bénéfice pour une maison de gens atteints de la paralysie, de maladie d'Alzheimer. C'est une maison à Trois-Rivières qui s'appelle Carpe Diem. Et je pense qu'on diffuse en Radio-VM à Trois-Rivières, je pense. Et puis, En tout cas, moi, je vais visiter les lieux. Et j'arrive, il y a un grand salon. C'est un peu avant le souper, en fin d'après-midi, je pense. Et il y a plein de gens atteints de la maladie avec leurs proches aidants. Et il y a une petite pianiste jeune qui étudie probablement dans une école de chant pas loin et qui vient faire ses dents en jouant pour eux un peu de musique. Elle est jeune, pas beaucoup d'expérience, mais elle le fait bénévolement, ce qui est tout à son honneur. Alors, évidemment, qui dit piano, qui dit Richard Rebel, on m'invite à prendre place puis à jouer une pièce. Alors, l'instinct que j'ai eu, et par la suite, les médecins m'ont confirmé que j'ai pris la bonne décision, c'est que l'instinct que j'ai eu, c'est de leur jouer des pièces qui ont bercé leur enfance. Alors, je commence à faire la barcarolle des contes d'Hoffmann. Et voilà que la magie s'opère. Je vois des gens lever la tête. Sont souvent courbés. Mm-hmm. Les proches aidants doivent se pencher presque à genoux pour avoir leur regard. Et là, je vois les têtes se lever. Et là, voilà une musique qui n'ont pas oublié parce qu'elle est profondément ancrée dans leur mémoire ou dans leur cerveau. Alors, je vois, moi, qu'il y a de la réaction. J'enchaîne avec les valses de Strauss, tiens, je me suis dit. Et là, quand on arrive, ta-la-la-la, puis ça fait pa-pa, pa-pa. Là, je vois ces gens-là taper dans les mains, chanter, lever. Il y en a même qui se sont levés debout. Et j'ai un monsieur qui arrive près de moi en pleurant. Et là, je suis en train de jouer, je dis « Bon, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Monsieur Abel, avec plein d'émotions, il dit « Ma mère n'avait plus aucune réaction depuis des mois. Regardez-la, elle sourit, elle vous regarde, elle lève la tête, puis elle tape dans les mains. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le miracle que vous faites? » Alors là, j'ai réalisé comment la musique pouvait être importante, qu'elle faisait plus que divertir. Et ce qui est triste, c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté de jouer, la maladie a repris sa place.
La pièce qu'on vient d'entendre est interprétée, bien sûr, par Richard Abel, « Sur les ailes du rêve ».
Oui.
Ça s'inscrit dans ce que vous racontiez précédemment.
Effectivement, « Sur les ailes du rêve » est une pièce de Mendelssohn. Et c'est une pièce classique. Et puis, j'ai décidé d'appeler l'album comme ça. C'est tellement beau. Et j'en ai fait une belle version avec l'orchestre, ce que vous venez d'entendre. J'étais accompagné par l'Orchestre philharmonique de Prague, quand même.
Par rapport à ce que vous évoquiez précédemment, avant l'écoute de cette pièce, on parlait donc de relaxation et aussi d'éveil, donc de créativité. Vous nous avez parlé de ces malades qui, soudainement, retrouvaient une certaine forme de vie. Il est prouvé, effectivement, que ce qui est enfoui profondément dans notre cerveau peut ressurgir soudainement à la suite d'une stimulation. Et la musique est une puissante façon de stimuler le cerveau. Ouais. Il y a un livre que vous connaissez, je crois, qui a été écrit par un de mes anciens collègues, Michel Rochon, Le cerveau et la musique. C'est un livre que je recommande fortement si vous vous intéressez à ce genre de situation, parce qu'il explique fort bien plusieurs mécanismes de fonctionnement du cerveau et les relations avec la musique. Il raconte même qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais entendre la musique. Tout ce qu'ils entendent, ce sont des bruits. Donc, les notes sont comme chacune séparées les unes des autres, n'est-ce pas?
Voilà, oui.
Et donc, c'est presque un don que de pouvoir capter cette sensibilité de musiciens comme vous, Richard Abel.
Oui, et il y a même deux tribus qui sont très éloignées une de l'autre, qui... Leur langage est seulement musical, ils sifflent. Seulement les hommes ont le droit de parler, les femmes n'ont pas le droit, bon voilà. Et dans la montagne, ils se parlent en sifflant. Leur vocabulaire est sifflé.
Alors, ce ne sont pas des mots.
Non.
Ce ne sont que des...
notes de musique.
Des notes de musique.
Ah, oui.
Michel Louvain, on pourra en reparler, lui n'avait que rien que des mots pour nous charmer. C'est ce qu'on va entendre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez composé la musique pour cette chanson.
Oui, c'est un honneur que Michel Louvain chante sur une de mes compositions. Il l'adorait, il aimait beaucoup le disque. Il l'écoutait souvent en soupant le soir, qu'il me disait. Il la chantait à son émission à peu près à tous les trois mois. Alors, finalement, quand il l'a fait sur disque, j'étais bien honoré de ça.
Cette passion est ce grand feu de paille. Lorsque la nuit s'achève, une obsession, le vent qui démolit nos châteaux sur la grève, une illusion, un fruit trop vert, le nom de dangereux poison, un radeau sur la mer, le vol du papillon, est-ce une larme sur ma joue? Un mauvais rêve, un sentiment, juste en passant. Rien que des mots d'amour en majuscule, pleins de tendresse, doux ridicule. Parfois cruel, troublant, comme sont les promesses. Rien que des mots, des ballons de couleurs partout à l'horizon, des étoiles dorées, des anges de carton, accordant leur guitare avec délicatesse. Rien que des mots. Des mots d'amour. De carton, accordant leur guitare avec délicatesse. Rien que des mots d'amour. Un sentiment, juste en passant pour couper court. Dis-moi des mots d'amour.
On vient d'entendre Michel Louvain, rien que des mots, sur les paroles de M. Jean-Guy Prince et sur la musique de Richard Abel. Oui. Et c'était suivi d'une berceuse, encore une fois, composition de vous-même, Richard, berceuse d'enfant. Comment vous est venue l'idée de cette berceuse?
Bon, je pourrais pas vous dire, je me suis assis au piano. Bon, parfois, c'est ça, les premières notes. J'ai commencé à toucher, puis là, bon. Mais j'ai beaucoup de difficultés à composer, sinon je l'aurais fait davantage. Mais il me semble que quand je compose une mélodie, qu'on l'a toujours entendue quelque part, mais celle-ci, je suis assez fier. Je trouve qu'elle ressemble à personne ou à rien en particulier. Donc, c'est la composition dont je suis le plus fier actuellement sur cet album.
Et j'étais heureux de faire ce petit montage, c'est-à-dire de la coller à cette chanson que vient d'interpréter Michel Louvain, rien que des mots, d'autant que vous en étiez le compositeur. Si vous nous parliez un peu de Michel, qui est disparu au cours des derniers mois, avec lequel vous avez beaucoup travaillé en début de carrière.
Oui, en fait.
Qui était quelqu'un de très connu pour vous, vous avez beaucoup fréquenté.
Mais pour les gens qui ont lu ma biographie, vous êtes au courant, Armand, qu'au départ, j'étudiais pour devenir médecin. Et quand j'ai bifurqué, je me suis en allé à la musique, quand j'ai abandonné mes études de médecine, mon premier travail professionnel a été celui de pianiste et chef d'orchestre de Michel Louvain. De lui, j'ai appris la tenue vestimentaire. Alors, je ne me présente jamais dans un spectacle mal habillé. Et aussi le respect du public. Je me rappelle d'un soir, nous étions à Atlantic City ou Cape Cod. Non, pas Cape Cod, Atlantic City. Wildwood, bon, pardon. Et nous avions fait deux ou trois mois, là, au même endroit. Et c'était plein de monde. Et un jour, on faisait les tests de son l'après-midi, puis Michel se sentait pas bien. Il a été étourdi, puis ça, puis il a dû s'asseoir sur un banc. Alors moi, je lui dis, Michel, si tu files pas très bien, ce soir, on peut couper 2-3 pièces. Et il m'avait répondu, le public a payé pour un spectacle complet, puis je vais leur faire un spectacle complet. Alors, on voit que... Ça traduit bien l'homme. Et un jour, je me rappelle... Et à l'époque, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pris de photos avec Michel sur la scène. on n'avait pas nos cellulaires comme on a aujourd'hui. Et la seule photo que j'ai de lui, c'était dans une petite boîte à chansons dans l'Outaouais. Il avait accepté de faire un spectacle d'après-midi, une matinée. Et on est dans la loge et puis on prend une photo comme ça. C'est quelqu'un qui me l'a offerte, je pense. Et je me rappelle de cette anecdote-là parce que en ouvrant sa valise pour chercher ses vêtements et ses trucs, il trouve un chèque de 5 000 $ dans un raccoin, là, dans un repli de là. Et puis, moi, à l'époque, j'étais pauvre. Comment avait-il pu oublier un chèque de 5 000 $ dans sa valise? Moi, je trouvais ça incompréhensible. Et par la suite, ça m'est arrivé à moi aussi, mais c'était de l'argent que j'ai trouvé dans une poche intérieure d'un manteau d'hiver. C'était les disques vendus d'un spectacle que j'avais fait il y a quelques semaines, puis je ne m'en rappelais plus. Mais je trouvais ça à l'époque, 5 000 $, c'était beaucoup d'argent, puis comment il a pu oublier ça? Puis j'espère que le chèque est encore bon.
Son départ vous a surpris?
Ah là là, surpris, et ça m'a frappé plus fort que je l'aurais imaginé quand j'ai appris son décès. J'étais triste, mais de là, ne pas dormir pendant quelques soirs, ça, je m'y attendais pas. Et ça leur a remis plein de choses en question, qu'il faut rien prendre pour acquis et que ça peut aller très vite. Michel avait perdu un peu de poids un petit peu avant les fêtes, mais il attribuait ça à une petite dépression parce que tous les spectacles avaient été remis, repoussés. Pendant qu'il était en Floride, il a commencé à avoir des reflux gastriques. Alors, mais il s'est dit, c'est des petits bobos de personnes qui vieillissent. Il avait 83, 84 ans. Alors, il n'a pas fait de cas, mais ça, c'était les premiers symptômes de son cancer de l'œsophage. Et puis là, à un moment donné, il avait de la difficulté à avaler. Et les dernières journées en Floride, il buvait que de l'ensure. Alors, il a décidé de rentrer une semaine ou deux plus tôt, je pense. Puis lorsqu'il est arrivé, aussitôt qu'il est arrivé le lendemain, il est allé voir, il est allé à l'hôpital. Puis voilà. Et mon médecin me disait que le cancer de l'œsophage, c'est très rapide et très agressif.
Ouais. Trago un fado no meu canto, canto a noite até ser dia.
Del mio popolo porta il dolore, nel mio canto la tristezza.
Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado.
Posso cantare senza fine, il mare, la terra.
De mim só me falto eu, senhora da minha vida.
E sonho é meu, já nato me ritrovo.
Trago um fado no meu canto.
Vieni nel mio stupore.
Une chanson un peu pour rendre hommage à Michel Louvain. On vient d'entendre Katy Pimentel et Marco Cagliari dans un fado. S'il y a un type de chanson qui fait presque l'éloge de... pas de la tristesse, mais du drame de l'âme qui souvent est affligée par la peine d'un amour perdu.
Mais c'était surtout pour les pêcheurs qui partaient au large.
Et aussi parce que sous le régime de Salazar au Portugal, on ne pouvait pas exprimer ses passions. Alors, c'était une façon de dire qu'on existait, qu'on pouvait aimer, qu'on pouvait pleurer, qu'on pouvait avoir de la peine. Alors, on a décidé de vous faire entendre Katy Pimentel parce que vous avez été beaucoup son mentor, en quelque sorte. Alors, la chanson avait pour titre « Me fado, moi fado » et elle était interprétée par Katy et par Marco Cagliari. La pandémie, et juste peut-être un mot avant de parler de pandémie, je veux juste ajouter que moi j'ai eu le plaisir de, je n'ai pas connu Michel Louvain, mais je le côtoyais presque au quotidien lorsqu'il animait Montréal en direct. Je travaillais à TVA à ce moment-là comme journaliste et on se croisait souvent dans l'ascenseur. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui préparait avec beaucoup de minutie, pour ne pas dire à la seconde près, son émission qu'il allait faire en direct à 17h tous les jours. Mais tout était, ça avait l'air improvisé, mais ce ne l'était pas tant que cela. Voilà, fallait le dire. On parle de pandémie, un mot, parce que ça n'a pas été facile. On vient de s'en sortir à peine. Là, heureusement, la vaccination va bon train. On voit que les cas ont beaucoup diminué. On espère qu'il n'y aura pas d'autres vagues. Un de vos amis, si j'ose dire, Rudy Morgan, a composé une chanson qui rend hommage à tous ces artistes qui sont restés un peu dans l'ombre à cause de la pandémie.
Oui, effectivement. Rudy, d'ailleurs, est un homme que je connaissais au départ lorsque j'étais en spectacle au Casino de Montréal. Il était venu enregistrer un de mes spectacles là-bas. Il faisait à l'époque du montage visuel. Et puis, mais c'est par la suite, lorsque nous nous sommes rencontrés en Floride, endroit que je vais à tous les hivers, tous les mois de février, en fait, donner des spectacles. Bien, en Floride, on a le temps. On est un peu en vacances. On est sur le bord de la mer, on est sur le bord d'une piscine. Et on a le temps de jaser. Et j'ai découvert cet homme et son épouse, Francine. Et à un moment donné, même, je l'ai invité à chanter quelques fois, à quelques reprises dans mes spectacles parce qu'il il interprète Aznavour d'une façon merveilleuse. Vous et moi, Armand, sommes allés le voir en Floride dans un spectacle.
Il a beaucoup de charisme.
Il a beaucoup de charisme. Et lorsqu'il chante Aznavour et aussi Adamo, en tout cas, on est touchés. Et ma dernière tournée en Floride, il nous a aidés même à installer tout l'équipement, le piano et tout ça. Et j'ai découvert un homme intelligent, instruit. Et quand je vous l'ai présenté, Armand, et que vous l'avez reçu à votre émission, mais j'étais bien content. C'est une belle personne.
Alors, on va l'écouter. Rudy Morgan nous interprète sa composition, « Ces anges-là ».
Tout juste un an vient de passer, et les salles sont vides à pleurer. Les spectacles ont été remis vers un futur indéfini.
L'artiste se nourrit d'espoir que des êtres venus d'ailleurs, un beau matin ou bien un soir, viendront lui réchauffer le cœur.
Ces anges qui nagent sur le public, ces anges qui nous
présents par leurs bravos et réconforts, leurs gestes d'encouragement.
soit du sud qu'il vienne du nord.
Acteur, chanteur et comédien,
voulons ces anges face à nous-mêmes
pouvoir chanter taper des mains.
Quand on remontera sur scène,
ces anges qui battent sur le public, ces anges qui nous font être heureux, ces anges sont longs mais fantastiques, que les artistes prient de chez eux. Ces anges-là se reconnaîtront, ces anges-là nous y croyons, ces anges-là.
Depuis bien des jours, on vient vous dire, mes bons amis, que venant de vous, ce grand amour nous réconforte à l'infini. À l'infini, à l'infini, à
Sur cette chanson, c'est vous qui êtes au piano.
Oui, effectivement, oui.
Alors, tout le monde se rassemble, hein, malgré la pandémie. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Vous-même, vous avez été tenu à l'écart à cause de la pandémie. Il y a combien d'artistes qui ont dû revoir complètement leur plan de vie parce que, bon, on ignorait tous à quel moment tout cela se terminerait. Ouais. Et Dieu sait que la distanciation était importante. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à traverser?
Je dirais oui et non. Dans ce sens que je m'explique, l'ennui du public de ne pas les voir, leurs applaudissements, leurs réactions, leurs sourires lorsqu'ils chantent quand je joue du piano. Tout ça, ça me manquait effectivement. Et de voir les amis, comme vous, Armand, nous avions l'habitude de se rencontrer à l'occasion dans un bon restaurant et tout ça. Mm-hmm. Alors ça, vraiment, ça me manquait. Mais par contre, je pense avoir traversé cette pandémie avec une certaine sérénité et... Parce que j'ai eu un truc au départ. Et à chaque fois que je parlais à des gens, je leur disais mon truc. Puis ils me disaient, ça a bien du sens. Je me suis mis à focaliser sur tout ce que je pouvais faire maintenant que nous étions en pandémie à la maison et tout ça, au lieu de penser à ce que je ne pouvais plus faire.
Pensée positive.
Alors, non, mais moi, j'ai plusieurs passions, entre autres cruciverbiste. J'adore faire les mots croisés à un tel point qu'un jour, je me suis ramassé sur la plage en Floride et avec mon dictionnaire dans le sable et mes mots croisés. Alors, et j'en faisais plus parce que j'avais pas le temps. Il y a des séries que je voulais écouter et réécouter, des livres que je voulais lire, plein de trucs que je voulais faire, apprendre, par exemple, un logiciel très complexe sur la notation musicale. J'étais toujours à la merci des autres.
Là, pour vous aviez le temps de le faire.
Voilà, et voilà que je me suis mis à faire des choses que je n'avais pas le temps de faire.
Une qui aurait probablement trouvé ça très difficile de traverser la pandémie, c'est Alice Robitaille, mieux connue sous le nom de...
Alice Robbie.
Oui. Alors, Alice Robbie, qui était née à Québec en 1923 et qui a quand même connu une carrière, peut-on dire, phénoménale?
Oui, et surtout rocambolesque aussi, oui. avec la sa lobotomie qu'elle a subie.
Exactement. Subi, tout ça, oui. Mais elle s'est promenée au plan international. Elle est décédée le 28 mai 2011. Elle est allée de New York à Los Angeles, en passant par le Mexique. Elle a été beaucoup associée à Londres comme chanteuse de guerre, parce qu'elle animait certaines soirées pour les soldats canadiens, où elle traduisait elle-même certains textes de vieilles chansons américaines ou de chansons patriotiques. Elle a aussi initié ici, pour le Québec, plusieurs traductions du répertoire latino-américain. On l'ignore peut-être, mais elle figure parmi les premières femmes canadiennes à avoir animé sa propre émission de radio. Ça, c'est bien avant moi, à Toronto. Ça s'appelait The Latin American Serenade et elle faisait jouer des chansons latino-américaines. Et vous, vous avez repris un de ses grands succès latinos qu'interprétait Alice Robbie, et c'est
Tico Tico.
Yes. laissez-moi encore chanter, laissez-moi encore rêver. J'ai tout au fond de moi, tant de choses à donner. Vous, mes amis qui êtes là ce soir, fidèles comme au premier temps de ma gloire, si je suis revenue sur cette scène, c'est pour vous dire que je vous aime. Oui, je vous aime, et depuis si longtemps, depuis le temps béni de mes 20 ans, j'ai tout quitté pour suivre votre amour. Et c'est pour ça que chaque jour, laissez-moi encore chanter, laissez-moi encore rêver. À ces années dorées qui m'ont tout apporté, laissez-moi encore chanter, laissez-moi encore rêver au son des mélodies qui ont bercé ma vie. Puis au moment du grand départ, dans un tout dernier au revoir, je dirai au Seigneur, s'il vous plaît, laissez-moi encore chanter, laissez-moi encore rêver une dernière fois avant de m'en aller.
Tico, suivi de cette belle chanson que on ne se lasse pas de l'entendre, Alice Robbie. Ça, c'est vers la fin de sa carrière. Laissez-moi encore chanter.
Oui.
Une composition d'Alain Morisseau.
Exactement.
Et qui a fait, je pense que pour elle, ça a été un beau cadeau, cette chanson.
Oh, voilà. Les paroles sont magnifiques. Et ces paroles-là lui collent à la peau. Et vraiment, et dans ma biographie, dans mon livre, je consacre un chapitre entier sur Alice Robbie parce qu'elle nous en faisait voir de toutes les couleurs. Autant que par ses costumes que par son caractère. Et il est arrivé des choses. Je me rappelle, un jour, on faisait un spécial à Radio-Canada et c'était filmé au Petit Champlain, Québec. Et puis, elle avait été tellement méchante et désagréable en cours de route que j'ai voulu l'abandonner sur le bord de l'autoroute parce que là, j'en pouvais plus. Et finalement, on s'est réconcilié. Elle m'a dit, je vous promets que je ne dirai plus un mot d'ici. Où... Alors, parce que j'étais au téléphone en train de trouver un autre pianiste pour me remplacer. Là, j'en pouvais plus.
Et ça, c'est sa période de diva. Là.
Ben oui, mais c'est ça. Mais elle était un peu bipolaire.
Hein, oui, aussi.
Et tout ça. Alors, mais rendu là-bas, c'est lorsque nous sommes à fleur de peau comme ça qu'on fait peut-être les plus belles performances. En tout cas, nous avions fait une émission extraordinaire. Je la collais, je voulais y montrer que j'étais bon aussi. Puis là, et elle avait fait du Piaf, elle avait fait plusieurs, puis Rum & Coca-Cola, et puis plusieurs.
Oui.
Ça, c'était M. Gillet qui était l'animateur.
Robert Gillet. Oui.
Et ça avait été une très belle
performance. Une grande vedette radiophonique de Québec.
Oui, et là, c'était une émission de télé. Mais, oui, effectivement. Alors, mais c'est Alice, c'était tout un tempérament. Puis elle m'a dit, à un moment donné, elle dit, Monsieur Abel, je vais vous dire une chose, tu sais, je ne l'ai jamais dite, je ne l'ai pas racontée dans mon livre. Ça me vient là, comme un flash. Je me permets de vous la raconter. Parce que là, elle ne s'excusait pas. Elle était un peu comme notre premier ministre là, qui hésite à... non, comme l'Église là, qui hésite à s'excuser, elle aussi, pour les enfants trouver les enfants inuits et tout ça. Mais, et elle me... elle me disait à mot couvert, elle dit, vous savez, M. Abel, ce que j'ai fait tantôt, c'est parce que vous et moi, nous avons du tempérament. Elle dit, des grands artistes ont du tempérament comme ça. Elle m'a dit, imaginez-vous que lorsque j'étais à l'asile, lorsque j'étais à l'hôpital à Québec, l'hôpital où elle était internée, 4 ou 5 ans,
Elle
dit, nous avions toutes des petites tâches à faire. Elle dit, la mienne était de nettoyer les ascenseurs et tout ça. Elle dit, les gens rentraient des fois dans l'ascenseur et disaient, regarde, c'est Alice Robbie. Elle dit ça, monsieur, ça prend de l'humilité, c'est connaître l'humiliation. Et elle dit peut-être que si vous aviez connu ces moments-là, vous auriez peut-être quelques écarts de...
Au plan du comportement.
Alors, elle m'avait expliqué ça.
Et récemment, je lisais, il y a un article qui a été publié dans les grands journaux où, thèse d'université, on tente d'associer la maladie mentale d'Alice Robbie à une façon de mettre un peu le couvercle sur l'émancipation de la femme qu'elle pouvait représenter, parce qu'elle était vraiment très en avant sur son temps. Ouais. Mais vous savez, on revisite souvent l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui.
Voilà.
Le contexte était différent. Ouais. Mais une grande, très, très, très grande artiste, probablement avec Emma Lajeunesse, les deux plus grandes vedettes internationales que le Québec ait connues. Emma Lajeunesse, ça date du début du siècle. Elle a fait quand même une carrière internationale comme grande chanteuse d'opéra. Et il faut se rappeler qu'au début du siècle, Emma Lajeunesse, qui devait chanter à Londres ou à Paris, il n'y avait pas d'avion à cette époque. Oh. Alors, ces gens-là devaient prendre le bateau et traverser l'Atlantique. Et c'était, comme on dit, c'était du grand sport.
Oh oui.
Écoutez, une autre personne qui vous est chère, et qui est la sœur d'une personne qui, elle aussi, connaît une carrière internationale, on parle de...
Claudette Dion. Eh bien, Armand, je vous apprends justement que Claudette et moi allons faire équipe ensemble. Par le passé, je m'étais associé avec le chanteur de Star Academy, Cornelio Montano, pour une série de spectacles. Ça avait duré 3 ou 4 ans. Et là, je récidive avec Claudette Dion parce que ça apporte un peu de sang neuf à mon spectacle. Alors, elle sera mon invitée spéciale pour une tournée, j'espère, qui durera plusieurs années. Et lorsque je l'ai rencontrée, en fait, sa plus grande qualité, paraît-il, pour les gens du métier, c'est qu'elle est tellement facile à travailler. Et elle m'expliquait, elle dit, Richard, tu sais, quand on vient d'une famille de 14 enfants, les chichis n'ont pas leur place, on n'a pas le temps. On a toutes essayé, mes sœurs et moi, d'en faire, mais ma mère n'avait pas le temps de s'occuper de nos chichis avec 14 enfants à nourrir. Et ça devait être extra. Ça doit être incroyable. Les déjeuners, les dîners, les soupers, c'est toujours à recommencer. Nous, on reçoit des fois 10 personnes, puis une fois par semaine, puis déjà, c'est beaucoup de travail. Vous imaginez, sans arrêt, 3 fois par jour.
Alors, transportons-nous dans cette salle de spectacle pour écouter Claudette Dion nous interpréter une belle chanson d'Édith Piaf,
oui,
qui a été composée par Charles Dumont, « Mon Dieu ».
Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux, un jour, 2 jours, 8 jours. Laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps de se fabriquer des souvenirs. Laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu,
Et bientôt, Claudette Dion sera à vos côtés.
C'est ça, j'anticipe avec hâte de débuter notre tournée ensemble. Claudette a fait l'Olympia de Paris. Je pense que c'était en première partie, si je ne me trompe pas, j'espère. Et puis, elle avait rendu hommage à Édith Piaf. Elle m'a raconté qu'un jour, elle ne chantait pas vraiment. Elle était maman de deux enfants. Et puis, on lui demande de faire une pièce en l'honneur de Céline. Je pense que c'était à Paris, en France. Et puis, elle a chanté l'hymne à l'amour. Et tout le monde lui a dit, tu devrais continuer à chanter puis te faire un hommage.
Bien, on n'a pas le temps d'entendre l'hymne à l'amour, mais on va vous inviter, Richard, à nous revenir la semaine prochaine. Et je vous promets qu'on va aller chercher ça en discothèque puis on va vous la faire entendre.
Bien, c'est bien gentil.
Le temps nous a glissé tellement rapidement entre les doigts parce que vous êtes toujours très, très, très volubile. C'est toujours un plaisir que de vous accueillir. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre Decagné, Armand Dubois, l'animation et réalisation. Notre invité de prestige par excellence, Richard Abel, était avec nous. Richard, présentez-nous rapidement la pièce qui va nous servir de thème de fermeture.
Et c'est quelle pièce, entre autres?
Bien, la pièce Stairway to Heaven.
Ah, Stairway to Heaven. Imaginez-vous, Armand, Richard Abel qui joue du Led Zeppelin. Mais il faut dire que c'est un arrangement plutôt classique avec un quatuor à cordes à la fin. C'est une pièce magnifique, Stairway to Heaven, une échelle qui nous amène au ciel. Je pense que sur mon album de berceuse, c'était approprié. Et vous allez voir, c'est très bien fait. C'est avec les arrangements. Si je vous dis que c'est bien fait, c'est pas à cause de mon piano et mon interprétation, mais plutôt pour les magnifiques arrangements de Guy Saint-Onge.
Et vous jouez merveilleusement.
Merci beaucoup.